France Inter. L'heure philo. Philo jusqu'à 21h, Lilian Alaume à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Mathias Alléon à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Pour faire une bulle de savon, il faut d'abord une bulle d'air. On fait pénétrer l'air dans l'eau en agitant l'eau ou en soufflant avec une paille. De l'air dans l'eau savonneuse. Quelle aubaine pour les molécules de savon dont, souvenez-vous, une extrémité ne supporte pas le contact avec l'eau. Ces molécules vont donc se précipiter sur la bulle d'air et y planter leur extrémité hydrophobe. La bulle d'air se retrouve donc enveloppée par une pellicule de savon. Et cette bulle remonte vers la surface comme n'importe quelle autre bulle d'air. Seulement en surface, il y a déjà beaucoup de monde. Des molécules de savon avec leur tête plantée dans l'eau et le corps dressé vers l'extérieur.
Extrait de C'est pas sorcier, Jamy sur France Télévisions. Vous êtes déjà en train de vous dire que vient faire une bulle de savon dans une émission de philo. Eh bien, figurez-vous qu'il y a toute sa place. Même Schopenhauer s'y est intéressé, je le cite, « Quand on souffle une bulle de savon, on y met tout le temps et les soins nécessaires. Pourtant, elle crèvera, on le sait bien. » Bonsoir Pierre Zaoui.
Bonsoir.
La bulle de savon, c'est à la fois rien du tout, et en même temps, c'est une métaphore de la vie. C'est ce que semble en tout cas dire Schopenhauer.
C'est une très ancienne métaphore, et c'est une métaphore qui remonte en un sens à l'Antiquité, à Varron. Alors c'est pas tout à fait des bulles de savon, c'est plutôt les bulles d'air des fontaines dont il parle, mais le thème de la bulle qui est ramené à la vie humaine est un thème de l'homo bulla, l'homme est une bulle. Nous sommes que du vide au fond qui va disparaître, surtout en vieillissant, dit Varron. Et c'est un thème donc très très ancien qui traverse et qui passe assez aisément, assez naturellement de l'Antiquité païenne à la modernité. Au Moyen-Âge, puis à la Renaissance chrétienne avec Erasme.
Alors Pierre Zaoui, vous publiez « Beauté au pluriel de l'éphémère, apologie des bulles de savon », c'est aux éditions du Seuil. C'est fou les significations, effectivement, de cette bulle. Les philosophes, les scientifiques, les artistes s'y sont beaucoup intéressés, de manière d'ailleurs plus ou moins indirecte. Et on vous sent, vous, à vous lire, complètement habité par le sujet, par ce jeu de silence et ce jeu sans chichi. Ah, je vous cite.
Sanchi, c'est une blague, mais un peu ce livre est...
Bah, ce livre n'est pas une blague.
Il y a du silence, il y a aussi beaucoup de rires et de cris. Quand les enfants soulevent des bulles de savon, il y a aussi beaucoup de rires et de cris. C'est une métaphore perpétuelle. D'abord, c'est une métaphore théologique. Ça a été pensé comme l'un des symboles possibles de la vacuité de la créature, c'est-à-dire du vide de l'être.
En tout cas, de la précarité humaine.
Il y a le thème de la précarité humaine, de la brièveté de la vie.
La précarité de la terre, la précarité du foyer, du cercle d'amis.
Absolument, qui sont des précarités anciennes, mais ça qui prennent leurs racines dans les philosophies païennes. Et puis il y a le thème de la vacuité théologique, qui est que nous n'avons pas d'être en soi. Tout notre être vient de Dieu. C'est comme dit saint Paul, c'est seulement en Dieu que nous avons notre être, que nous nous mouvons et que nous vivons. Donc ce thème de la vacuité théologique, c'est que nous sommes vides. Et puis il y a le thème, qui est un autre thème qui apparaît avec les moralistes, quand l'âge d'or de la bulle de savon, c'est le XVIIe siècle, qui est le thème de l'amour propre, de celui qui se gonfle tout imbu avant d'éclater, de sa propre prétention. Et la bulle rassemble ces deux thèmes, qui sont ces deux sens de vanité, qui sont pas du tout les mêmes, et peut être le symbole de l'un et de l'autre, puis après elle passe à peu près partout. Vous avez cité Schopenhauer qui reprend ultimement dans sa forme athée cette tradition de la bulle de savon comme brièveté de l'existence, mais elle est aussi très utilisée par les scientifiques. de Fontenelle au XVIIIe siècle jusqu'à les grands penseurs de la mousse quantique.
Non, mais c'est ça qui est incroyable, parce qu'on voit bien que le sujet est d'une richesse formidable et que pourtant, on continue à penser qu'il n'y a rien à en dire, qu'il n'y a rien à raconter là-dessus et qu'il n'y a pas, par exemple, ça vous le dit, ça m'a fait rire, qu'il n'y a pas de magazine des bulles.
Oui, comme il y aura un magazine des échecs ou un magazine du rugby. Mmh. Non, il n'y a pas de magazine des bulles, mais c'est très bien comme ça. C'est ça aussi la pauvreté des bulles, c'est-à-dire que c'est d'une extrême richesse symbolique, peut-être en sorte d'une trop grosse richesse, parce qu'on se met à lui faire signifier mille et une choses différentes, alors que la petite bulle, c'est rien du tout. Et les enfants le savent très bien, c'est une jubilation d'un moment. Et puis après, on s'en lasse vite.
Mort
on va pas passer sa journée, après il recommence, mais aucun enfant, et c'est très très beau à voir, aucun enfant ne va souffler des bulles pendant des heures et des heures. Il ne souffle un petit moment, voilà, c'est un petit moment de l'existence.
Poème de Francis Ponge, Le Savon, lu par Denis Podalydès, c'était sur France Culture en avril 2020.
Plus il les rend complaisantes, souples, liantes, ductiles, plus ils bavent, plus sa rage devient volumineuse et nacrée. Pierre Magie. Plus il forme avec l'air et l'eau des grappes explosives de raisins parfumés. L'eau, l'air et le savon se chevauchent, jouent à saute-mouton, forment des combinaisons moins chimiques que physiques, gymnastiques, acrobatiques, rhétoriques. Il y a beaucoup à dire à propos du savon. Exactement tout ce qu'il raconte de lui-même jusqu'à disparition complète, épuisement du sujet. Voilà l'objet même qui me convient. Le savon a beaucoup à dire, qu'il le dise avec volubilité, enthousiasme. Quand il a fini de le dire, il n'existe plus. Une sorte de pierre, mais qui ne se laisse pas rouler par la nature. Elle vous glisse entre les doigts et fond à vue d'œil plutôt que d'être roulée par les eaux. Le jeu consiste justement alors à la maintenir entre vos doigts et à l'y agacer avec la dose d'eau convenable afin d'obtenir d'elle une réaction volumineuse et nacrée. Qu'on l'y laisse séjourner, au contraire, elle y meurt de confusion.
Il y a beaucoup à dire sur ce savon qui est dérisoire, ce savon oublié sur un coin de lavabo, un rebord de lavabo.
Après, si on poursuit le poème, il y a même les bulles qui vont apparaître chez Francis Ponge. Je suis très content que vous passiez cet extrait, parce que c'est un très beau poème, et c'est un poème important, c'est un poème de 1944. Donc on est quand même en pleine guerre, c'est l'occupation, évidemment, on se penche du côté de la résistance. Mais lui, il écrit le savon, quand d'autres écrivent de la poésie de résistance.
Qui n'était mais c'est quand quoi, même, c'est fait des bulles, pas la guerre
pas bien terrible. Et les bulles de savon, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est en 1944 ouais. Et là, il y a un moment, bien évidemment, qu'il est encore communiste. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'usage de la poésie qui est faite à l'époque pour Ponge. Et lui, il souffle des bulles. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas au monde, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe en ce moment en Europe, mais il vaut peut-être mieux faire ça. Et en un sens, la bulle de savon, c'est ça. C'est quoi la beauté de l'éphémère? C'est quoi la beauté des bulles de savon? C'est d'arriver à trouver des petites formes pures qui nous dégagent un petit peu. Là, entendu, les informations avancent, l'épouvantable de la guerre à Gaza. Ben non, quand on souffle une bulle de savon, il y a des moments où la philosophie doit aussi prétendre à ne pas dire la vérité du monde et à dire simplement sa légèreté ou ses interstices.
Alors vous, Pierre Zaoui, vous aimez les bulles de savon, mais il y a des gens qui n'aiment pas, et notamment des philosophes. Vous racontez que Platon n'a pas aimé jouer aux bulles.
Non, ça j'en sais rien.
Bon, enfin,
je dis juste sa description des bons jeux pédagogiques dans les lois. Il est très peu probable.
Voilà. Bon. Mais par exemple, il y en a pour les, il y a des philosophes pour lesquels ça a été une fausse monnaie justement la bulle de savon.
Ben oui, beaucoup, mais ça l'est encore, là vous citiez Schopenhauer tout à l'heure, ça l'est éminemment chez Erasme, c'est-à-dire le thème de la bulle, c'est notre inconstance, c'est l'ombre du nombre, dans l'adage 1248, il fait le miscellanée, il compile toutes les formules chez les poètes anciens, comme dans son fond chrétien et vétérotestamentaire comme néotestamentaire, il compile tout ce qui a été dit de la bulle de savon comme justement ce symbole de la vanité, du vide, de l'ombre, de l'inconsistance de la vie humaine. alors que c'est vraiment à partir, je crois, du 19e ou du 20e siècle, et chez les peintres.
Oui, moi, ça, les peintres, on m'en parlait.
Parce que bien évidemment que chez les peintres, c'est beaucoup plus intéressant, une bulle de savon.
Mais y a une, c'est beau aussi, une bulle de savon, et il y a une proximité esthétique avec des gouttes de pluie, avec des gouttes de rosée, avec l'écume des vagues. Ça se ressemble tout ça un peu, non ?
Absolument. Donc là, il aurait fallu... je ne l'ai pas fait complètement. Il aurait fallu la perle, la goutte de rosée, la boule de cristal ou la boule de verre, notamment dans les natures mortes hollandaises. Il y a la sphéricité qui reflète ou le miroir. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont solides, il y en a qui sont durs. Ce qui m'intéressait particulièrement dans le thème de la bulle de savon, c'est que c'est un ovni. C'est qu'elle est inclassable. C'est d'un côté une pure vanité, mais elle est entièrement pleine. Elle est pleine d'air, et l'air existe pleinement. Il a sa gravité qui est légère, mais qui est quand même une gravité. On le classe parmi les vanités au sens de la prétention ou rappeler la brièveté de la vie, mais elle a jamais prétendu durer. Personne n'a jamais cru, aucun enfant ni personne, qu'une bulle allait durer.
Enfin, il y en a quand même une, et là c'est une vraie prouesse, parce qu'en général, effectivement, elles éclatent assez vite, qui a duré, ça c'est vous qui l'écrivez, donc je l'ai appris dans votre livre, qui a duré 465 jours.
Paraît-il.
Comment on a fait durer une bulle 465 jours ?
Ah bah ça, il faudrait demander à un scientifique comment font les physiciens là-dessus. Ils rajoutent des polymères, ils les rendent plus costauds, plus résistantes. Ils vont arriver à faire des bulles éternelles. Après,
c'est une bonne nouvelle.
On peut aussi congeler une bulle de savon. C'est très beau. Vous avez un certain nombre de vidéos là-dessus de boules qui givrent, qui peuvent givrer en hiver. Après, une fois qu'elle est givrée, vous pouvez la garder, j'imagine, très longtemps. Je dis boule parce qu'on disait boule au XVIIe siècle. Mais ce qui m'intéresse dans la bulle de savon, c'est justement son caractère éphémère. C'est-à-dire, on lui change de nature. C'est plus tout à fait des bulles de savon, une bulle qui peut durer 465 ans. C'est une expérience scientifique.
Est-ce que, par exemple, pour un scientifique, pour un physicien notamment, ça peut être ça peut s'approcher d'une bulle de savon, donc toujours de l'extension de l'univers. Est-ce qu'il peut y avoir cette idée-là ?
Il y a plusieurs idées, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui travaillent. Il y a ceux qui travaillent sur les matières molles entre liquides.
C'est Pierre-Gilles Degène, non, qui est
Pierre-Gilles Degène. Alors après, dans le détail des connaissances, j'ai essayé d'aller voir, je comprenais pas grand-chose. C'est pour ça que on parlera peut-être de peinture après, plutôt. Mais en revanche, dans la physique quantique ou dans l'essai sur la pluralité des mondes de Fontenelle, c'est une métaphore. C'est une simple métaphore, ou en biologie aussi, chez von Uexküll, pour désigner l'umwelt animal, c'est une métaphore qui sert à désigner cette clôture, et peut-être que l'univers n'est qu'une cavalcade de bulles de savon qui se regroupent en amas les unes après à côté des autres, certaines qui partent un peu plus loin. On cherche des modèles, c'est un bon modèle.
Beauté de l'éphémère, apologie des bulles de savon, c'est donc le titre de votre essai, Pierre Zawi. Vous êtes ce soir l'invité de l'heure philo, Cat Power, She Belongs to Me.
She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. Start out standing proud, steal her anything she sees. But you'll wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall.
she never stumbles. She's got no place to fall. She's nobody's child. The law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring. It sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring. It sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector. You are a walking antique.
Le grand Henri Cartier-Bresson, c'est une archive INA d'avril 1964, évoquant l'art de la photographie au moment, enfin, il avait sorti un livre dont il parle là, quelques années auparavant, qui est Images à la sauvette, et il avait choisi, je le précise pour que vous compreniez bien son propos, une citation du cardinal de Retz pour exergue, et le cardinal écrivait « Il n'y a rien en ce monde qui n'ait son moment décisif et le chef-d'œuvre de la bonne conduite est de connaître et de prendre ce moment », un peu comme quand on fait des bulles de savon. Henri Cartier-Bresson.
Faire le vide, c'est de faire le vide en soi-même, d'oublier, de ne pas penser à l'appareil et d'être concentré, disponible sur ce qu'on voit. Et puis alors, tout ce qui fonctionne, le battement de cœur, le clignement d'yeux et tout ça.
Mais est-ce que ce moment-là...
Ça implique tout, c'est une totalité. C'est pour ça que c'est une joie. C'est une grande joie, mais plutôt physique qu'une intellectuelle. Oui. Tandis que le dessin, c'est pas une contemplation, mais c'est une méditation, le dessin.
Oui, mais
pour moi, c'est la base. Alors, heureusement, les choses changent. Mais il y a quelques années, de dessiner d'après nature, mais qu'est-ce que c'est que ces ringards, ces pauvres types, un demeuré, il n'est pas dans le mouvement. Oui, mais enfin... Qu'est-ce que ça veut dire, l'instant ? C'est pas de moi. J'ai trouvé ça avec Thériade comme exergue pour le livre. Et en tirant ça, j'avais lu ça dans le Cardinal de Retz. Et puis c'est l'éditeur américain qui a pris ce titre. Parce que nous avions dit l'instant à la sauvette. C'est-à-dire que nous sommes des pickpockets.
Pierre Zaoui, la joie dont parle Cartier-Bresson, c'est la joie de l'enfant, et cet enfant-là nous apprend en quelque sorte à vivre en philosophe.
Ah oui, ça, je pense qu'il y a une grande philosophie de l'enfance.
Et de la photographie.
Oui, cette philosophie qui consiste à avoir cette joie absolument pure de l'éphémère, de pas y voir immédiatement la mort, la déréliction, la brièveté de sa vie, le malheur qui monte. Au contraire, il y a une joie immédiate. Et là, dans cette idée de mouvement décisif, et Cartier-Bresson, alors sur la bulle de savon, c'est plutôt Hélène Levitt qui invente à peu près le concept de mouvement décisif au même moment.
Mais la photographie est présente dans votre réflexion.
Tous les arts visuels ont été quand même fascinés par la bulle de savon. La photographie, avant elle, la peinture, le cinéma aussi. Mmh. Évidemment, avec des enjeux qui sont pas du tout les mêmes. Là, l'enjeu pour la photographie, c'est le moment décisif. L'enjeu pour la peinture, c'était aussi comment peindre la transparence. C'est aussi des enjeux de virtuosité. Donc, comment saisir ce moment avant que la bulle éclate et qu'elle est au bon endroit? Est-ce qu'on va pouvoir saisir quelques formes d'irisation, quelques jeux de couleurs dessus ou pas? Chez les peintres, c'est peindre la transparence. Chez les cinéastes, notamment chez Blake Edwards, que j'aime beaucoup dans The Party, c'est la cavalcade, le tsunami de bulles de savon qui envahit la ville californienne et détruit la fête.
Vous disiez tout à l'heure, la bulle, c'est du vide aussi, et le vide est désir. Et le désir, c'est l'enfance du monde.
Je crois que le désir est l'enfance du monde. Je suis notamment spinoziste. Au départ, tout était le désir. Hein. Et le désir, ça c'est un petit peu un jeu. Hein. Je me suis amusé à essayer de, parce que j'aime beaucoup Stendhal, je me suis amusé à essayer de taquiner mon Stendhal bien-aimé en lui disant j'ai une meilleure métaphore que ton Rameau de Salzbourg.
Donc tu te rappelles de quoi il s'agit quand même.
C'est au début de l'amour, où il essaie de caractériser l'amour comme un processus de cristallisation, comme un rameau qui est jeté dans une mine de sel. Et quand on en ressort quelques mois plus tard, il est constellé de cristaux. Et au fond, le problème, c'est qu'il y a l'idée de ce rameau tout séché, alors que la vérité du désir, c'est cette plénitude qui est immédiatement identifiée au manque, et qui est les deux en même temps, qui est à la fois Poros et Peña, pour reprendre la généalogie de Platon, c'est-à-dire à la fois expédient ou passage, et puis pauvreté ou dénuement. Et un désir, c'est ça, c'est le manque de quelqu'un qui passe, et quand il passe, il disparaît, quand il disparaît complètement, il reste même pas un rameau. Quand ça décristallise, il n'y a pas de rameau, donc de ce point de vue-là, la bulle me semble. Mais évidemment, c'est qu'un jeu. Le seul jeu, c'était de dire... Avant d'être une préscience de sa mort ou une préscience de sa disparition, c'est d'abord la jubilation de l'apparition, la jubilation d'un carpe diem, la jubilation d'un moment arraché à l'ordre et au cycle de la vie et de la mort.
On est loin des bulles spéculatives du monde de la finance avec ce que vous dites.
On est très loin. J'avais pensé en parler un moment et puis j'en ai pas parlé du tout, mais parce que j'ai voulu faire un livre non méchant. Donc les bulles spéculatives, il n'y a rien à faire là-dedans.
Et les politiques, vous pensez qu'ils devraient souffler des bulles un peu plus souvent ?
Je ne sais pas. Ce n'est pas un livre militant.
Non, c'est une question.
Je pense qu'on a tous besoin, et que même ceux qui font de la politique comme tous les autres, on a tous besoin à un moment de décrocher, d'avoir une occupation qui est dépourvue du sens du monde présent. Voilà. Souffler dans une bulle de savon, c'est dépourvu. Là, aujourd'hui, c'est un geste immémorial. C'est très suranné, la bulle de savon. C'est un jeu très, très ancien. On ne sait pas quand il remonte. On trouve dans des livres d'heures de la fin du Moyen-Âge déjà des représentations. C'est aussi vieux que le savon. Il n'y a pas de raison que les Babyloniens faisaient sans doute des bulles de savon comme on en fait aujourd'hui. Et ça a beau être totalement dépassé, suranné, dans notre imaginaire, on continue à voir des enfants partout faire des bulles de savon tout le temps.
Il y a même un jeu qui est vendu déjà tout fait où on peut.
C'est insupportable.
Vous n'aimez
les pistolets.
Ça, ça vous plaît.
Non,
pas.
Parce que ce qui est très beau, c'est le souffle divin. C'est ce que Sauterlaï décrit très bien au début de Bulles. C'est l'enfant reprend la position dans le pneuma de Dieu et remplit son monde et construit son monde. Quand il s'agit juste d'appuyer avec la main pour faire des bulles, d'ailleurs, il y a moins de poésie, les enfants sont beaucoup plus indifférents. Ce qui est très très beau, moi, ce qui me plaisait, ce que je trouve extrêmement beau, c'est la vanité qui se dessine sur leur visage, la belle vanité d'avoir réussi à faire une bulle et de s'en sentir le créateur. Alors qu'au fond, ils n'ont rien fait du tout, ils ont soufflé, les lois de la physique l'ont fait à leur place.
Mais on redevient, Pierre Zahoui, on redevient un enfant quand on fait des bulles, et je vous pose la question, et est-ce qu'au fond, il ne faut pas laisser ça précisément aux enfants ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les adultes s'en mêlent.
Ben, en un sens, oui. Je suis en train de perdre ma voix, pardonnez-moi.
Oui, alors là, j'étais en train de me dire qu'effectivement, vous alliez bientôt avoir la voix de Cat Power. Parce que c'est pas très très loin
de pour faire un duo. Ou Barbara.
Ou Barbara. Non, mais je sais pas, il faut que vous voulez est-ce pas boire quelque chose de chaud. Et c'est
j'ai essayé d'écrire un livre sans « il faut ». La bulle de savon, on arrête de dire « il faut ». Si on a envie d'en souffler, on peut en souffler. On n'est pas obligé. Personne n'est obligé. Personne nous en empêche. Personne nous y oblige. Ce serait un peu... S'il y a une éthique de la bulle de savon, c'est une éthique du laisser-faire de ce type-là. Et donc, ce dont il faut alléger l'enfant, en tout cas, c'est du poids symbolique trop grand qu'on a voulu lui donner. Et que, au lieu d'essayer de chercher, j'ai un peu essayé de dégonfler ou de tailler à la serpe dans tout ce savoir. J'imaginais pas qu'il y avait un tel savoir sur les bulles de savon.
Vous l'imaginiez pas avant de...
Non, avant de travailler dessus. Au début, c'était juste une volonté de m'alléger un peu et de prendre un objet. Voilà, de faire mon Flaubert, de faire un livre de philosophie sur rien. Parce que je trouve que le rien, c'est une très belle idée. Puis finalement, il y a plein de choses. Mais au fond, il a fallu un peu élaguer tout ça pour essayer de retrouver l'expérience sauvage des enfants qui n'ont pas du tout tout savoir, moins la manière d'un phénoménologue que de l'art brut. C'est ça qui m'intéressait, je crois.
Jean-Paul Sartre, c'est une Archivina de 1947.
Merci. La grande idée de l'existentialiste, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Tenez, par exemple, vos sportifs, n'est-ce pas ? Ils ont tout à fait tort. En ce sens que nous pensons précisément qu'il n'est pas de corps que l'exercice, la patience, ne puisse s'améliorer. Et par conséquent, l'existentialisme est au contraire pour le sport. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. Si par exemple, comme on est en train de le faire à présent, nous décidons que la liberté n'existe pas, que la pensée est inefficace, que nous sommes impuissants, que la seule loi, c'est par moment la violence et la plupart du temps la soumission résignée, alors nous ferons arriver ce que nous avons décidé. Et pendant des siècles peut-être, l'homme ne sera plus que cela, rien que cela, et il ne méritera pas d'être davantage. Si au contraire, fût-ce une poignée d'hommes, continue à affirmer que notre destin est entre nos mains, même si demain il doit se produire une catastrophe, pourvu que ces hommes ne lâchent pas prise, l'idée reste, elle pourrait être reprise par d'autres. Qui sont les pessimistes ? Est-ce nous ? Ou bien sont-ce les gens qui pensent ça et qui nous insultent ?
Alors Pierre Zahoui, vous parlez de, vous évoquez hein, Sartre dans votre essai. Sartre, pour qui l'homme n'aura jamais été qu'une passion inutile, fondée sur le désir impossible d'être Dieu et le désir impossible de dépasser un tel désir.
Oui, ça c'est l'avant-dernier chapitre de l'être et du néant. Là, je... Mais là, il parle de la dans l'extrait que vous venez de passer, il parle de la responsabilité écrasante de l'homme et qui renvoie à cette phrase de l'être et le néant, que même un enfant est responsable de la guerre, ce que je pense absolument pas. On voit aujourd'hui ailleurs dans le monde, un enfant n'est jamais responsable de la guerre, un enfant n'est jamais responsable. Et pour moi, travailler sur la bulle de savon, c'était justement travailler sur une liberté qui ne soit pas à identifier, comme ça l'est chez Sartre, à une responsabilité écrasante. C'est une liberté absolument irresponsable. Et c'est une jubilation de l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on souffle des bulles qui vont toutes crever ou qui vont toutes éclater à droite, à gauche. Ça n'a absolument aucune importance. Si ça tâche un peu les vitres de la maison, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que généralement, il vaut mieux en faire dans la rue. Et donc c'est l'inverse de la liberté, je pense que c'est un grand moment de liberté, mais c'est l'inverse de la liberté sartrienne. C'est la liberté qui n'est pas responsable. Je pense qu'il est très important, on peut pas porter dans chaque geste de sa vie, penser que c'est un choix de monde ou que c'est un projet de monde qui est en jeu. Je pense que le projet des tout petits mondes que sont les bulles de savon ne sont pas du tout des grands projets de monde qui mettent en jeu le monde, qui au contraire le suspendent et on en a tous besoin si on veut pas nous-mêmes exploser.
Et la peinture, alors justement, vous l'avez un petit peu évoqué, le domaine est vaste, des bulles de savon de Chardin à Brielle l'Ancien, en passant par Rembrandt, Cupidon à la bulle de savon, il y a aussi l'enfant à la bulle de savon avec ses magnifiques joues roses, son joli sourire tendre, il a l'air d'être fier justement d'être un enfant.
Ah, alors, est-ce que c'est Titus, le fils de Rembrandt ? On ne sait pas, sans doute. Il est très fier et il est... Là, on n'est pas du tout... C'est la liberté de Rembrandt. On n'est pas du tout... Et c'est ce qui est merveilleux chez Rembrandt. On n'est pas du tout dans la théologie. On n'est pas du tout dans la bulle qui annonce la mort. On n'est pas du tout dans la bulle Memento Mori, dans la bulle Vanité. On est dans cette joie. Et le tableau de Rembrandt est absolument extraordinaire parce que c'est cette joie de l'enfant... qui est plein de vanité, ses vêtements sont très riches, c'est un fils de bourgeois, et il est tout content d'avoir fait sa bulle. Et on trouve ça absolument charmant. Alors pourquoi la même vanité chez les régents de la ronde de nuit de Rembrandt va pas passer du tout, et ça va lui coûter assez cher? Sans doute que la vanité des adultes est beaucoup plus insupportable que la vanité des enfants. Pour ce livre, c'était aussi un peu d'essayer de poser cette question. Et pourquoi la vanité des enfants, au fond, est plaisante? Parce qu'elle dure pas, parce qu'elle est très éphémère, et que ce serait pareil, la vanité des adultes. Aussi, quelqu'un qui a besoin d'être applaudi, on a tous besoin d'être encouragé, d'être applaudi, mais il faut que ça dure pas trop longtemps. Donc, s'il y a un sens que les enfants là apprennent aux adultes, s'il y a une philosophie de l'enfance dont on ferait bien de s'inspirer, c'est cette idée que l'éphémère est ce qui, au lieu d'essayer de cacher, de chasser, de conspuer la vanité chez les autres ou la vanité en soi, on pourrait l'aimer un peu plus à condition de laisser un peu moins de place.
Et dans le tableau de Rembrandt, l'enfant, il est plein de désir. Vous écrivez d'ailleurs, tous les traits du désir sont là.
Bien sûr. Tous les traits du désir au sens où il y a... Le désir, c'est ça, c'est ce trésor. Là, quand il dit, il va chercher dans le banquet le terme de Platon, le terme d'agalma, de trésor, ça peut dire statue aussi, mais là, c'est trésor enfoui quand Alcibiade parle de ces bois, tout se cache un trésor et la bulle de savon, il y a quelque chose de magique pour n'importe quel enfant, mais pour n'importe quel adulte, sauf peut-être pour un physicien un peu chevronné, mais il y a cette dimension magique. Qu'est-ce que c'est que cette objet incroyablement vulnérable et incroyablement parfait. C'est quand même un cercle et s'il n'y a pas de vent, c'est une pure sphère, c'est-à-dire un élément du monde extralunaire qui descend parmi nous.
Mais le désir précisément, qu'est-ce que c'est? Il naît de quoi? Et qu'est-il?
Mais le désir, c'est ça.
C'est quoi? C'est un manque?
Ce sentiment, le désir, c'est à la fois un manque et c'est en même temps un passage, un forçage vers un objet qui est censé contenir quelque chose qui va nous satisfaire, parce qu'on sait pas, le désir c'est quoi? C'est appêter quelque chose vers une satisfaction dont on ignore absolument ce qui peut véritablement la contenter ou pas. Et la bulle de savon dans sa perfection, dans sa beauté, c'est là où la beauté, le chapitre sur le désir est assez platonicien, c'est là où la beauté est le moteur fondamental du désir, c'est quelque chose de beau qui apparaît partout. Quelle que soit la bulle de savon, quel que soit le contexte, c'est beau. Et il y a une beauté fascinante chez si on reprend le tableau de Rembrandt. On les connaît, ces riches étoffes, les riches habits, et ils se moquent un petit peu de l'enfant, du riche enfant. Mais il y a la perfection et la pureté de la beauté de la bulle. Elle est sans rien. Elle demande aucun effort, aucun argent, aucune richesse.
Et alors, s'il y en a un qui a désiré, peut-être pas faire des bulles, mais qui a désiré ce tableau, l'enfant à la bulle de savon, c'est un certain Patrick, vous allez nous raconter ensuite
c'est
l'histoire.
Stupidant.
Il avait volé l'enfant à la bulle de savon, il avait volé le tableau de Rembrandt.
Quand je reviens la troisième fois, je suis plus documenté sur sa vie et encore plus passionné. Donc l'enfant a doublé de dimension pour moi et il est deux fois plus magnifique. J'avais 24 ans et là il y a eu plus qu'une complicité, il y a eu un échange. Et il s'est passé quelque chose d'encore magique avec lui. Les années ont passé et là le dialogue commence à me manquer. Je ne le voyais plus depuis 2 ans et c'est vrai que ce dialogue a commencé vraiment à me manquer. Je l'ai recherché à travers d'autres personnes que je n'ai pas retrouvées. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de le voir plus souvent. Là, le voir plus souvent, c'était l'idée folle de me l'approprier, de le dérober. Ma vie était sans intérêt, donc j'ai pensé que de faire quelque chose de grand et de me l'approprier, et la machine a commencé à être lancée.
Patrick, donc, sur France Télévisions en 2016, c'est quand même une histoire complètement dingue de tomber amoureux de ce tableau, d'aller le voler. Je vous laisse raconter la suite, Pierre Zaoui. C'était donc, là au musée des Beaux-Arts de Draguignan.
Au musée des Beaux-Arts de Draguignan, il vole le tableau, il va vivre avec un certain temps, puis il aura des scrupules.
Mais il déménage plusieurs fois, il le cache, parce que même il ne le dit pas à sa femme qu'il a ce tableau.
Il est totalement caché, il a un rapport... Ce qui est assez beau, c'est qu'il a un rapport de fascination absolument compréhensible. Et je pense que ce voleur au grand cœur sait qu'il se trompe. Parce que justement, la bulle de savon ne peut pas être appropriée. C'est ce Cupidon à la bulle de savon. C'est pas l'enfant à la bulle de savon de Rembrandt, qui était au musée de Draguignan. Et quand il finit par le rendre, le tableau est à nouveau expertisé. Et on se rend compte que c'est un faux. Et que c'est pas un Rembrandt.
Mais c'est ça qui l'a tué, parce qu'il est mort peu de temps après.
Je sais pas si
après.
C'est ça qui l'a tué.
Mais il est mort. Très jeune, cet homme.
Cet homme, il est mort assez jeune, oui, je pense. Après, c'est pas tant le voleur qui m'intéressait, mais le tableau est très beau. Ça dit assez explicitement le rapport. Et le tableau pose effectivement ce rapport, Cupidon avec sa bulle de savon, qui nomme la bulle de savon.
C'est Cupidon à la bulle de savon qui l'a volé.
Oui,
je me suis trompée. Ah.
Et dans c'est
Cupidon, qui est un tableau extraordinaire. Il a même fait, parce que moi, je suis allée regarder sur. Il a fait un selfie.
Oui.
C'est fou, avec le tableau en arrière-plan.
Oui, c'est une histoire assez extraordinaire. Alors, au musée de Draguignan, c'était un peu triste d'apprendre que ce n'était pas un vrai Rembrandt, puisque c'était un peu leur
chef d'œuvre. Ils ont peut-être eu des problèmes aussi avec la sécurité.
Mais c'est pas très grave.
Il avait réussi à le voler quand même.
C'est très intéressant, les copies. Et là, pour le coup, si on est dans ces beautés de l'éphémère, c'est très très bien, les copies. Il n'y a pas d'originalité éphémère. Tout ce qui est éphémère vient après, vient au milieu des choses. Ne vient pas les fonder, on ne vient pas leur donner des origines. Donc, une copie, je traite le Cupidon dans la bulle de savon exactement comme l'enfant bulle de savon, ça a autant de signification et de pertinence parce qu'il n'y a pas d'authenticité de la bulle.
Pierre Zahoui, est-ce qu'il y a une idée de la pauvreté et de la frugalité dans la bulle de savon?
Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert tard. Mais je me suis dit, au fond, donc j'avais réfléchi sur la bulle de savon en tant que jeu. Je me suis dit, mais c'est quand même un jeu incroyablement pauvre.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de magazine.
Il n'y a pas de magazine, et puis c'est quand même un jeu très pauvre. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas vraiment de compétition, il n'y a pas de... Alors on peut toujours inventer aujourd'hui, il y a des montreurs, des dompteurs de bulles de savon qui font des bulles de plus en plus grosses, etc., etc. Mais dans le petit jeu enfantin, il n'y a pas vraiment de compétition, il n'y a pas vraiment de spectacle, il y a un petit spectacle qui dure mais très très peu de temps, au fond, et après, tout le monde, c'est un micro-spectacle qui s'égaille. Donc c'est un jeu assez pauvre, qui ne demande pas beaucoup d'instruments, qui est un jeu de trois fois rien, c'est un jeu qui coûte pas cher, c'est un jeu qui est le jeu sans doute le plus transclasse, je pense, tous les enfants du monde ont soufflé dans des bulles de savon, des plus pauvres, des townships de Soweto jusqu'à la grande aristocratie, on en a des
même à la cour d'Angleterre, je suis sûr qu'on a joué
tous les enfants du monde ont joué aux bulles de savon. Il y a quand même cette universalité qui interroge, et puis après j'ai retrouvé ce thème de la pauvreté au fond, parce que le but du livre était un peu d'essayer de une très rapide et un peu sauvage cartographie de l'enfance. Donc la vanité, le désir, le monde et la mort, qui me semblent être les quatre dimensions d'une vie enfantine, enfin en tout cas de la face solaire de la vie enfantine, parce qu'après il y a des grandes lourdeurs, des terribles chagrins de l'enfance, mais que là j'ai pas voulu traiter. Donc c'est pas du tout toute l'enfance, c'est qu'une phase de l'enfance qui est ici décrite. Et qu'à chaque fois, sur la vanité, il y a cet enjeu de la pauvreté. C'est tout le thème de la vanité, c'est de montrer combien tout ce qui brille est fondamentalement pauvre, combien on est tous pauvres et combien le luxe n'est qu'une pauvreté dissimulée, mais tout est dans la dissimulation. Tout le thème du désir, c'est quand même un manque, c'est aussi une pauvreté. Je pense que seuls les pauvres peuvent désirer aimer, on peut pas aimer quand on est riche, je crois. C'est le thème d'une pauvreté en monde, parce que c'est des mondes pauvres, c'est des mondes animaux, c'est ce petit Umwelt.
C'est un sujet à lui tout seul, mais on ne peut pas aimer quand on est riche?
Non, je crois pas, quand on manque de rien. C'est quand même passer son manque, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, comme dit... un ancien psychanalyste.
Mais l'enfant, et donc précisément, il fait...
La richesse ferme tous les trous.
Non, mais justement, l'enfant, il fait des bulles pour personne. Il n'y a pas de destinataire.
Si, toujours un petit. Comme dans le tableau de Chardin, il y en a un plus petit que soi.
Ouais.
C'est aussi pour éblouir un peu la galerie. Quand il est absolument tout seul, il n'en fait pas très longtemps. Il peut en faire...
Ouh là là, ça ne s'améliore pas.
Non, non, mais
on va tenir. Est-ce que après on va marquer on va écouter un disque comme ça vous avez le temps de récupérer. Je voulais juste est-ce qu'à votre avis on perd son temps quand on fait des
bien sûr, mais c'est formidable de perdre son temps. C'est retrouver le sens de perdre son temps. C'est faut arrêter de et qu'on peut pas donner un sens au temps si c'est pas sur un fond de temps perdu. Bon, ça, je crois que certains écrivains l'ont décrit.
Mais il y a une vérité du temps qu'on perd.
Absolument, je crois. Cette vérité du temps qu'on perd, c'est justement de temporaliser l'existence. S'il n'y avait pas de temps perdu, on vivrait dans l'éternité de Dieu. Alors, on n'aurait pas de temps.
Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends. But I'm wising up to them. Making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle dit nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean.
Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours.
C'était un extrait de l'Ecclésiaste. Pierre Zaoui, si la bulle est le symbole de la vanité, est-ce que ça peut être aussi le remède à la vanité?
C'est le remède à un rapport pathologique qu'on a avec la vanité. Et c'est le remède. C'est un texte extraordinaire pour moi, le texte de l'Ecclésiaste, comme le texte de, comme le livre de Job. C'est un texte assez extraordinaire parce que on attend tout sauf ça dans une Bible, dans une Torah ou dans un des textes sacrés religieux. On ne sait pas au fond si Dieu existe. Alors il y a les deux dernières phrases de l'Ecclésiaste qui ont été beaucoup commentées. Dans l'Ecclésiaste, au fond, tout est vain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signification. Mais au fond, est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est à déplorer? Le texte est très ambigu, parce que un peu après ce passage, il dit que, au fond, l'homme doit profiter de la vie ici-bas, et il doit travailler, savoir profiter du moment présent, parce qu'il n'aura rien d'autre. Et ça, c'est un peu le thème de la bulle de savon. Il y avait une traduction qui n'est pas du tout qu'une traduction désuète du Vanité des Vanités, tout est vanité, qui rajoutait et qui avait aucun sens dans le texte hébraïque, qui rajoutait et pâture de vent. Mais en même temps, ça marche tellement bien, cette traduction, pour la bulle de savon, parce que la bulle de savon, c'est la pâture de vent, et on peut voir le texte de l'Ecclésiaste un peu comme la vérité de la bulle de savon, c'est-à-dire apprendre qu'on est vain et que dans cette vanité-là, il y a tant au fond de légèreté, de soulagement. Heureusement que le monde est vain, sinon on supporterait pas tous ces guerres, ces morts, ces violences. Heureusement qu'il y a, c'est pas tant de choses consistantes qui disparaissent.
Vous parliez de Job. Pierre Assouline, auteur d'un livre, Vie au pluriel, Vie de Job, c'était sur France Info en 2010.
Vous savez, il y a beaucoup de leçons à cette histoire, parce que ça fait quand même près de 25 siècles qu'on s'interroge sur le livre de Job. Il y a toute une montagne de commentaires, d'exégèses, de toutes sortes, dans toutes les langues. J'en ai consulté beaucoup. Il y a aussi le fait que on peut aimer et on doit aimer Dieu gratuitement, sans rien attendre en retour. Toute la question de la rétribution qui a été posée pendant des siècles s'agite à travers ça. Et puis, Job pose la question du mal. Pourquoi est-ce que je souffre ? Si Dieu existe, si Dieu est la bonté même, pourquoi est-ce qu'il y a une souffrance sur Terre ? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui meurent, etc., etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller sur les traces de Job partout dans le monde, que ce soit à Paris, en banlieue parisienne, à Épinal, à Villefranche, à Bombay, à Londres, à Jérusalem, bien sûr, où j'ai fait de très longs séjours, pour voir finalement que Job, qui est une parabole, qui n'est pas un personnage qui a pas vraiment existé, eh bien, cet homme fait parabole existe toujours. Pour moi, Job vit toujours. Il y a de nombreuses vies de Job dans la mesure où Job est probablement le personnage qui a eu le plus d'influence sur les hommes. C'est-à-dire les questions qui agitent Job, qui le hantent, sont des questions qui hantent les hommes encore aujourd'hui. Et le livre de Job aide les hommes à vivre aujourd'hui encore un peu partout dans le monde.
Alors c'est un personnage énigmatique, Job, et dans le judaïsme, la figure de Job, c'est la figure du pauvre.
C'est une figure du riche au départ.
Du riche au départ, mais qui perd tout, voilà, qui est condamné.
Qui perd tout.
Qui sera condamné de façon d'ailleurs assez arbitraire quand même.
Juste et riche, et qui est totalement condamné, c'est insensé. Mmh. Le Dieu qui joue avec Satan pour. Satan met au défi Dieu. Enfin, rien n'a de sens dans ce texte, d'un point de vue théologique, mais est-ce qu'il y a une théologie dans le judaïsme? Je ne sais pas. C'est là où ce texte est si beau et si, comme le dit justement David Assouline, problématique.
Pierre Assouline,
pardon.
Pas grave.
Le problème par rapport au livre de Job, et c'est là où moi je m'appuie davantage sur la question de la vanité dans l'Ecclésiaste, c'est que le livre de Job, c'est terrible. Il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd tous ses amis, il perd tous ses biens.
Il se retrouve tout seul pour affronter la justice.
Dans une solitude, une douleur remplie d'ulcères. C'est absolument monstrueux, alors que là, quand Pierre Assouline dit il y a beaucoup de leçons à tirer de Job, je sais pas. C'est très difficile. Moi, j'ai du mal à tirer la moindre leçon. La seule chose qui est, c'est là où mon livre s'appelle pas Sagesse de l'éphémère, mais Beauté de l'éphémère. C'est qu'il y a des formes de beauté de l'éphémère qu'on trouve dans l'Ecclésiaste et qu'on trouve pas chez Job.
Alors, à un moment donné, la bulle éclate. C'est le néant, c'est le vide. Et on peut voir ça comme une façon aussi d'apprivoiser la mort.
Ça, je crois que c'est ce que voient les enfants. Et là, il m'a semblé que les enfants avaient un rapport à la mort qui n'était pas du tout le même que le nôtre.
La mort, ça peut être léger.
Et qui était assez sage, la mort pouvait être légère. C'est cette phrase incroyable de Blanchot, la mort c'est la légèreté. Dans le dernier homme, phrase que j'ai mis longtemps à comprendre, et c'est cette idée véritablement que la mort n'est pas nécessairement un scandale.
Vous citez Blanchot, on peut vous citer aussi Baudelaire. Baudelaire, la mort des artistes, dit par Serge Reggiani.
Combien faut-il de fois secouer mes grelots et baiser ton front bas, morne caricature, pour piquer dans le but de mystique nature, combien, ô mon carquois, perdre de javelot. Nous userons notre âme en de subtils complots et nous démolirons maintes lourdes armatures avant de contempler la grande créature dont l'infernal désir nous remplit de sanglots. Il en est qui jamais n'ont connu leur idole et ces sculpteurs damnés marqués d'un affront qui vont se martelant la poitrine et le front n'ont qu'un espoir, étrange et sombre Capitole, c'est que la mort, planant comme un soleil nouveau, fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau.
Il faut parler après ça, la mort des artistes de Baudelaire, lu par Serge Reggiani, Pierre Zawi.
Où est la bulle de savon ? Il y a ces trois poèmes qui sont à la toute fin des Fleurs du Mal, c'est pas les derniers mais presque. Il y a la mort des amants, la mort des pauvres et la mort des artistes. Dans la mort des artistes, c'est quand même cette terreur, ces sanglots de la mort et qui pourront être sauvés par la postérité, par la sempiternité de l'œuvre. La bulle, elle est peut-être plutôt du côté de la mort des pauvres.
Merci Pierre Zawi. Beauté Merci. Au pluriel de l'éphémère, apologie des bulles de savon, est publié aux éditions du Seuil. Merci à vous.